Anatole France, Le Lys Rouge, chapitre 1er. Elle donna un coup d'œil aux fauteuils assemblés devant la cheminée, à la table à thé qui brillait dans l'ombre, et aux grandes herbes pâles des fleurs montant au-dessus des vases de chine. Elle enfonça la main dans les branches fleuries des aubiers pour faire jouer leurs boules argentées. Puis elle se regarda dans une glace avec une attention sérieuse. Elle se tenait de côté, le cou sur l'épaule, pour suivre le jet de sa forme fine dans le fourreau de satin noir autour duquel flottait une tunique légère, semée de perles où tremblaient des feux sombres. Elle s'approcha, curieuse de connaître son visage de ce jour-là. La glace lui rendit son regard avec tranquillité, comme si cette aimable femme qu'elle examinait, qui ne lui déplaisait pas, vivait sans joie aiguë et sans tristesse profonde. Au mur du grand salon vide et muet, les figures des tapisseries, vagues comme des ombres, pâlissaient parmi leurs jeux antiques en leur grâce mourante. Comme elles, les statuettes de terre cuite élevées sur des colonnettes, les groupes de vieux Saxe et les peintures de Sèvres, étagées dans les vitrines, disaient des choses passées. Sur un socle garni de bronze précieux, le buste de marbre de quelques princesses royales déguisées en Diane, le visage chiffonné, la poitrine audacieuse, s'échappait de sa draperie tourmentée, tandis qu'au plafond, une nuit, poudrée comme une marquise et environnée d'amour, semait des fleurs. Tout sommeillait, l'on n'entendait guère que le piétillement du feu et le bruissement léger des perles dans la gaze. S'étant détournée de la glace, elle alla soulever le coin d'un rideau et vit par la fenêtre, à travers les arbres noirs du quai, sous un jour blême, la Seine traîner ses moires jaunes. L'ennui du ciel et de l'eau se réfléchissait dans ses prunelles d'un gris fin. Le bateau passa, l'hirondelle débouchant d'une arche du pont de l'Alma et portant d'humbles voyageurs vers Grenelle et Billancourt. Elle le suivit du regard, tandis qu'il dérivait dans le courant fangeux, puis elle laissa retomber le rideau et, s'étant assise à son coin accoutumé du canapé, sous les buissons de fleurs, elle prit un livre jeté sur la table à portée de sa main. Sur la couverture de toile paille brillait ce titre en or, Iseute la Blonde, par Viviane Bell. C'était un recueil de vers français composé par une Anglaise et imprimé à Londres. Elle l'ouvrit et lut au hasard, quand la cloche, faisant comme qui chante et prie, dit dans le ciel ému, « Je vous salue Marie », la Vierge, en visitant les pommiers du Gerger, frissonne d'avoir vu venir le messager qui lui présente un lys rouge et tel qu'on désire mourir de son parfum sitôt qu'on le respire. La Vierge, au jardin clos, dans la douceur du soir, sans l'âme lui monter aux lèvres et croit voir couler sa vie ainsi qu'un ruisseau qui s'épanche en limpide filet de sa poitrine blanche. Elle lisait, indifférente, distraite, en attendant ses visites et songeant moins à la poésie qu'à la poétesse, cette Miss Bell, qui était peut-être son amie la plus agréable et qu'elle ne voyait presque jamais, qui à chacune de leurs rencontres si rares l'embrassait en l'appelant « darling », lui donnait brusquement du bec sur la joue et gazouillait, qui, laide et séduisante, presque un peu ridicule et tout à fait exquise, vivait à Fiesole en esthète et en philosophe, cependant que l'Angleterre la célébrait comme la poétesse la plus aimée. Ainsi que Vernon Lee et que Mary Robinson, elle s'était éprise de la vie et de l'art toscan. Et sans même achever son Tristan, dont la première partie avait inspiré à Burne-Jones de rêveuses aquarelles, Elle faisait des vers provençaux et des vers français sur des pensées italiennes. Elle avait envoyé son Iseult la Blonde à Darling avec une lettre pour l'inviter à passer un mois chez elle à Fiesole. Elle avait écrit « Venez, vous verrez les plus belles choses du monde et vous les embellirez. » Et Darling se disait qu'elle n'irait pas, qu'elle était revenue à Paris. Mais l'idée de revoir Miss Bell et l'Italie ne lui était pas indifférente. En feuilletant le livre, elle s'arrêta par hasard à ce vers. Amour et gentil cœur sont une même chose. Et elle se demanda, avec une ironie légère et très douce, si Miss Bell avait aimé et ce que pouvaient bien être les amours de Miss Bell. La poétesse avait à Fiesole et un Sigisbée, le prince Albertinelli. Très beau, il semblait bien épais et vulgaire pour plaire à une esthète qui mettait dans le désir d'aimer le mysticisme d'une annonciation. « Bonjour Thérèse, je suis Vanée. » C'était la princesse Seniavine, souple dans ses fourrures, qui semblait tenir à sa chair brune et sauvage. Elle s'assit brusquement et de sa voix rude, pourtant caressante, où il n'y avait de l'homme et de l'oiseau. « Oh, ce matin, j'ai traversé tout le bois à pied avec le général Larivière. Je l'ai rencontré dans l'allée des Potins et je l'ai mené jusqu'au pont d'Argenteuil, où voulait absolument acheter au gardien du bois pour me la donner, une pisse à vente, qui fait l'exercice avec un petit fusil. Oh, je suis moulu !»« Mais pourquoi donc avez-vous entraîné le général jusqu'au pont d'Argenteuil ?»« Parce qu'il avait la goutte à l'orteil !» Thérèse haussa les épaules en souriant. « Vous gaspillez votre méchanceté, vous êtes une gâcheuse. » « Et vous voulez, chérie, que j'économise ma bonté, ma méchanceté, en vue d'un placement sérieux ?» Elle but du vin de Tokay. Précédé du bruit puissant de son souffle, le général Larivière s'avança d'un pas lourd, baisa la main aux deux femmes et s'assit entre elles, l'air têtu et satisfait, l'œil retroussé, riant par tous les petits plis des tempes. « Comment va, monsieur Martin Bellem? Toujours occupé ?» Thérèse croyait qu'il était à la chambre et même qu'il y faisait un discours. La princesse Seniavine, qui mangeait des sandwichs au caviar, demanda à madame Martin pourquoi elle n'était pas venue bien hier chez madame Meillant. On avait joué la comédie. Une pièce scandinave, est-ce que c'était réussi? Ouais, je sais pas, j'étais dans le petit salon vert, sous le portrait du duc d'Orléans. Monsieur le Ménil est venu à moi et il m'a rendu un de ses services qu'on n'oublie pas. Il m'a sauvé de monsieur Garin. Le général, qui avait la pratique des annuaires et emmagasinait dans sa grosse tête tous les renseignements utiles, dressa l'oreille à ce nom. « Garin ? » demanda-t-il, « ministre qui faisait partie du cabinet lors de l'exil des princes ?»« Oui, lui-même. Je lui plaisais excessivement. Il me parlait des besoins de son cœur et me regardait avec une tendresse effrayante. Et de temps en temps, il contemplait en soupirant le portrait du duc d'Orléans. Je lui ai dit, « Monsieur Garin, vous confondez. C'est ma belle-sœur qui est orléaniste. » « Je ne le suis pas du tout, moi. » Alors à ce moment, monsieur le Ménil est venu me conduire au buffet. Il m'a fait de grands compliments sur mes chevaux. Il m'a dit aussi qu'il n'y avait rien de plus beau que les bois l'hiver. Il m'a parlé des loups et des louvards. Cela m'a rafraîchi. Le général, qui n'aimait pas les jeunes gens, dit qu'il avait rencontré le Ménil la veille au bois, galopant à tombeau ouvert. Il déclara que les vieux cavaliers conservaient seuls la bonne tradition, que les gens du monde avaient maintenant le tort de monter comme des jockeys. De même pour l'escrime, ajouta-t-il. Autrefois, la princesse Seniavine l'interrompit brusquement. Général, regardez donc comme Madame Martin est jolie. Elle est toujours charmante, mais en ce moment elle l'est plus que jamais. C'est qu'elle s'ennuie. Rien ne lui va mieux que l'ennui. Depuis que nous sommes ici, nous l'embêtons ferme. Aussi, voyez, voilà, le front chargé, le regard vague, la bouche douloureuse. Une victime. Elle bondit, embrassa tumultueusement Thérèse et s'enfuit, laissant le général étonné. Madame Martha Bellem le supplia de ne pas écouter cette folie. Il se remit et demanda: Et vos poètes, madame? Il avait peine à pardonner à madame Martin son goût pour les gens qui écrivaient et n'étaient pas de son monde. Oui, vos poètes, qu'est devenu monsieur Choulette qui vous fait des visites en cache-nez rouge? Mes poètes, oh, ils m'oublient, ils m'abandonnent. Il ne faut compter sur personne. Les hommes, les choses, rien n'est sûr. La vie est une trahison suivie. Il n'y a que cette pauvre Miss Bell qui ne m'oublie pas. Elle m'a écrit de Florence et envoyé son livre. Miss Bell, n'est-ce pas cette jeune personne qui a l'air avec ses cheveux jaunes frisottés d'un petit chien d'appartement? Il calcula de tête et fut d'avis qu'elle devait bien avoir 30 ans à cette heure. Une vieille dame, portant avec une dignité modeste sa couronne de cheveux blancs, et un petit homme vif, l'œil fin, entrèrent coup sur coup. Madame Marmet et Monsieur Paul Vance. Puis, très roide, un carreau dans l'œil, parut Monsieur Daniel Salomon, l'arbitre des élégances. Le général s'esquiva. On parla du roman de la semaine. Madame Marmet avait plusieurs fois dîné avec l'auteur, un homme jeune et très aimable. Paul Vance trouvait le livre ennuyeux. Bon, soupira Madame Martin, tous les livres sont ennuyeux, mais les hommes sont plus ennuyeux que les livres, et ils sont plus exigeants. Madame Marmet fit connaître que son mari, qui avait beaucoup de goût littéraire, avait gardé jusqu'à la fin de ses jours l'horreur du naturalisme. Veuve d'un membre de l'Académie des inscriptions, elle se parait dans les salons de son veuvage illustre, douce et modeste d'ailleurs, dans sa robe noire et sous ses beaux cheveux blancs. Madame Martin dit à monsieur Daniel Salomon qu'elle voulait le consulter sur un groupe d'enfants. C'est du Saint-Cloud, vous me direz si cela vous plaît. Vous me donnerez aussi votre avis, monsieur Vance, à moins que vous ne méprisiez ces bagatelles. Monsieur Daniel Salomon regarda Paul Vance à travers son carreau avec une hauteur maussade. Paul Vance faisait du regard le tour du salon. Vous avez de belles choses, madame. Ce ne serait rien encore, mais vous n'avez que de belles choses et qui vous sont bien. Elle ne cacha pas son plaisir de l'entendre parler de la sorte. Elle tenait Paul Vance pour le seul homme tout à fait intelligent qu'elle reçût. Elle l'avait apprécié avant que ses livres lui eussent donné une grande renommée. Sa mauvaise santé, son humeur noire, son labeur assidu l'éloignaient du monde. Ce petit homme bilieux n'était guère plaisant. Pourtant, elle l'attirait. Elle estimait très haut son ironie profonde, sa fierté sauvage, son talent mûri dans la solitude. Elle l'admirait avec raison comme un excellent écrivain, l'auteur de beaux essais sur les arts et les mœurs. Le salon s'emplit peu à peu d'une foule brillante. Il y avait maintenant dans le grand cercle des fauteuils Madame de Vresson, dont on connaît l'effroyable histoire, et qui gardait, après 20 ans de scandale, mal étouffé, des yeux d'enfant sur des joues virginales. La vieille Madame de Morlaine, qui poussait en cris perçants ses maux d'esprit, vive et perdue, agitant ses formes monstrueuses comme une nageuse entourée de vessie. Madame Raymond, la femme de l'académicien. Madame Garin, la femme de l'ancien ministre. Trois autres dames encore. Et debout contre la cheminée, Monsieur Berthier d'Aisel, rédacteur du journal des débats, député, qui caressait ses favoris blancs et faisait la roue, tandis que Madame de Modène lui criait « Votre article sur le bimétallisme, une perle, un bijou, oh la fin surtout, une pure ivresse !» Debout au fond du salon, des jeunes gens de club, très graves, zézayaient entre eux. Qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir le bouton aux chasses du prince? Oh, lui, rien, mais sa femme, tout. Ils avaient leur philosophie. L'un d'eux ne croyait pas aux promesses des hommes. Encore des types qui ne vont pas du tout. Le cœur sur la main et sur la bouche. Vous vous présentez au cercle, vous promet de vous donner une boule blanche. Si elle sera blanche, un globe d'albâtre, une bille de neige. On vote, crac, une truffe. Oh, la vie est une sale chose quand j'y pense. Alors, il pense pas, dit un troisième. Daniel Salomon, qui s'était joint à eux, leur soufflait à l'oreille de sa voix chaste des secrets d'alcôve. Et à chaque révélation étrange sur Madame Raymond, sur Madame Berthier des Ailes, sur la princesse Séniavine, il ajoutait négligemment, mais tout le monde le sait. Puis, peu à peu, la foule des visiteurs s'écoula. Il ne restait plus que Madame Marmet et Paul Vance. Celui-ci s'approcha de la comtesse Martin et lui demanda « Quand voulez-vous que je vous présente de Chartres ?» C'était la seconde fois qu'il le lui demandait. Elle n'aimait pas avoir de nouveaux visages. Elle répondit avec beaucoup de détachement « Ah, votre sculpteur, oh, quand vous voudrez. J'ai vu de lui au Champ de Mars des médaillons qui sont très bien. Mais il produit peu, c'est un amateur, n'est-ce pas? Non, c'est un délicat. Il n'a pas besoin de travailler pour vivre. Il caresse ses figures avec une lenteur amoureuse. Mais ne vous y trompez pas, madame, il sait et il sent. Ce serait un maître s'il ne vivait pas seul. » « Oh, je le connais depuis l'enfance. On le croit malveillant et chagrin. Non, c'est un passionné et un timide. Ce qui lui manque, ou ce qu'il manquera toujours pour atteindre au plus haut de son art, c'est la simplicité d'esprit. Il s'inquiète, se trouble et garde ses plus belles impressions. À mon avis, il était moins fait pour la statuaire que pour la poésie ou la philosophie. Il sait beaucoup, et vous serez étonné de la richesse de son esprit. » Madame Marmet, bienveillante, approuva. Elle plaisait au monde en paraissant s'y plaire. Elle écoutait beaucoup et parlait peu. Très complaisante, elle donnait du prix à sa complaisance en la faisant un peu attendre. Soit qu'il eût vraiment du goût pour Madame Martin, soit qu'elle sût montrer dans chaque maison où elle allait des marques discrètes de préférence, elle se chauffait, contente, comme une aïeule au coin de cette cheminée de pur style Louis XVI qui convenait à sa beauté de vieille dame indulgente. Il ne lui manquait là que son bichon. « Comment va Toby ?» lui demanda Madame Martin. « Monsieur Vance, connaissez-vous Toby ? Il a de longs poils de soie et un petit nez d'amour noir. » Madame Marmet goûtait les louanges données à Toby. Quand un vieillard rose et blond, aux cheveux bouclés, myope, presque aveugle sous ses lunettes d'or, bas sur jambes, butant contre les meubles, saluant les fauteuils vides, se jetant dans les glaces, poussa son décrochu jusque devant Madame Marmet, qui le regarda indigné. C'était M. Schmoll de l'Académie des inscriptions. Il souriait, grimaçant et poupin. Il tournait des madrigaux à la comtesse Martin avec cette voix héréditaire, rude et grasse, dont les juifs, ses pères, pressaient leurs créanciers, les paysans d'Alsace, de Pologne et de Crimée. Il tenait lourdement ses phrases. Ce grand philologue, membre de l'Institut de France, savait toutes les langues, excepté le français. Et Madame Martin s'amusait de ses galanteries lourdes et rouillées, comme les ferrailles qu'étaient les brocanteurs, et parmi lesquelles tombaient quelques fleurs séchées de l'anthologie. M. Schmoll était amateur des poètes et des femmes, et il avait de l'esprit. Madame Marmet feignit de ne pas le connaître et sortit sans lui rendre son salut. Quand il eut épuisé ses madrigaux, M. Schmoll devint sombre et pitoyable. Il gémit abondamment. Il poussa sur lui-même des plaintes aiguës. Il n'était ni assez décoré, ni assez pourvu de sinécure, ni suffisamment logé aux frais de l'État. Lui, Madame Schmoll et leurs 5 filles. Il se lamenta avec quelque grandeur. Un peu de l'âme d'Ézéchiel et de Jérémie était en lui. Par malheur, traînant au ras de la table ses yeux lunettes d'or, il découvrit le livre de Viviane Bell. « Oh, Isotte la blonde !» s'écria-t-il amèrement. « Vous lisez ce livre, madame ? Eh bien, sachez que mademoiselle Viviane Bell m'a volé une inscription et que depuis elle l'a altérée en la mettant en vers. Vous la trouverez à la page 109 du livre. Ne pleure pas, toi que j'aimais. Ce qui n'est plus ne fut jamais. Laisse couler ma douleur sombre. Une ombre peut pleurer une ombre. Vous entendez, madame, une ombre peut pleurer une ombre. Eh bien, ces mots sont traduits textuellement de l'inscription funéraire que j'ai publiée et illustrée le premier. L'année dernière, un jour que je dînais chez vous, me trouvant placé à table à côté de mademoiselle Bell, je lui citais cette phrase qui lui plut beaucoup. Et à sa demande, dès le lendemain, je traduisis en français l'inscription tout entière, je la lui envoyais. Et voilà que je la trouve tronquée, dénaturée, dans ce volume de vers, avec ce titre « Sur la voie sacrée ». Mais la voie sacrée, c'est moi. Il répéta, dans sa mauvaise humeur bouffonne, « Mais c'est moi, madame, la voie sacrée !» Il était contrarié que le poète n'eût pas parlé de lui à propos de cette inscription. Il aurait voulu lire son nom en tête de la pièce, dans les vers, à la rime. Il voulait toujours voir son nom partout. Et il le cherchait dans les journaux dont ses poches étaient bourrées. Mais il n'avait pas de rancune. Il n'en voulait pas à Miss Bell. Il convint de bonne grâce que c'était une personne très distinguée et la poétesse qui faisait aujourd'hui le plus d'honneur à l'Angleterre. Quand il fut parti, la comtesse Martin demanda très ingénument à M. Paul Vance s'il savait pourquoi la bonne Madame Marmet, bienveillante d'ordinaire, avait regardé M. Schmoll avec tant de colère et de silence. Il était surpris qu'elle ne le sût pas. « Mais je ne sais jamais rien. Mais la querelle de Joseph Schmoll et de Louis Marmet, dont retentit si longtemps l'Institut, est restée fameuse. » Elle n'a cessé que par la mort de Marmet, que son confrère implacable poursuivit jusqu'au Père Lachaise. Le jour où l'on enterra ce pauvre Marmet, il tombait de la neige fondue. Oh, nous étions mouillés et glacés jusqu'aux os. Au bord de la fosse, dans la brume, dans le vent, dans la boue, Schmoll lut sous son parapluie un discours plein de cruauté joviale et de pitié triomphante qu'il porta ensuite aux journaux dans une voiture de deuil. Un ami, maladroit, le fit voir à la bonne Madame Marmet, qui en tomba évanouie. Est-il possible, madame, que vous n'ayez jamais entendu parler de cette querelle savante et féroce ? La langue étrusque en fut la cause. Marmet en faisait son unique étude. Il était surnommé Marmet l'Étrusque. Ni lui ni personne ne connaissait un seul mot de cette langue perdue jusqu'au dernier vestige. Et Schmoll répétait sans cesse à Marmet, « vous ne savez pas l'étrusque, mon cher confrère. C'est en cela que vous êtes un savant honorable et un bon esprit. » Piqué par ces louanges cruelles, Marmet s'avisa de savoir un peu d'étrusque. Il eut à ses confrères des inscriptions en mémoire sur le rôle des flexions dans l'idiome des anciens toscans. Madame Martin demanda ce que c'était qu'une flexion. « Oh, madame, si je vous donne des éclaircissements, nous allons tout embrouiller. qu'il vous suffise de savoir que, dans ce mémoire, le pauvre Marmet citait des textes latins et les citait tout de travers. Oh, Schmoll est un latiniste de grande valeur, et après Mommsen, le premier épigraphiste du monde. Il reprocha à son jeune confrère, Marmet n'avait pas 50 ans, de lire trop bien l'étrusque et pas assez bien le latin. Depuis lors, Marmet n'eut plus de repos. À chaque séance, il était persiflé avec une férocité joyeuse et bafouée, de telle sorte que malgré sa douceur, il se fâcha. Schmoll est sans rancune. C'est une vertu de sa race. Il n'en veut pas ce qu'il persécute. Un jour, montant l'escalier de l'Institut en compagnie de Renan et d'Oppert, il rencontra Marmet et lui tendit la main. Marmet refusa de la prendre et dit « Je ne vous connais pas. » « Me prenez-vous pour une inscription latine ?» répliqua Schmoll. « C'est un peu de ce mot-là que le pauvre Marmet est mort et enterré. Vous comprenez maintenant que sa veuve, qui garde pieusement son souvenir, voit son ennemi d'un œil d'horreur. Et moi, qui les ai fait dîner ensemble l'un côté de l'autre, tout contre. Madame, non, ce n'était pas immoral, mais non, mais c'était cruel. » « Cher monsieur, je vais peut-être vous choquer, mais s'il fallait absolument choisir, j'aimerais mieux faire une chose immorale qu'une chose cruelle. » Un homme jeune, grand, maigre, le visage brun, coupé d'une longue moustache, entra, salua avec une brusque souplesse. « Monsieur Vance, je crois que vous connaissez monsieur Leménil. » En effet, ils s'étaient déjà trouvés ensemble chez madame Martin, et se voyait quelquefois à la salle d'armes où Leménil était assidu. La veille encore, il s'était rencontré chez madame Meillant. « Bon, madame Meillant, voilà une maison où l'on s'ennuie, » dit Paul Vance. « Pourtant, on y reçoit des académiciens, » dit monsieur Leménil. « Je n'exagère pas leur valeur, mais c'est en somme une élite. » Madame Martin sourit. « Oh, nous savons, monsieur Leménil, que chez madame Meillant, vous vous êtes occupé des femmes plus que des académiciens. Vous avez conduit la princesse Seniaville au buffet et vous lui avez parlé de loup. »« Comment de loup ?»« Oui, de loup, de louve et de louvard, et des bois noircis par l'hiver. Nous avons trouvé qu'avec une si jolie personne, c'était un entretien un peu farouche. » Paul Vance se leva. « Si vous me le permettez, madame, je vous amènerai mon ami Duchâtre. Il a grande envie de vous connaître et j'espère qu'il ne vous déplaira pas. Il a du mouvement et de la vie dans l'esprit, il est plein d'idées. » Madame Martin l'arrêta. « Oh, je n'en demande pas tant. Les gens qui ont du naturel et qui se montrent tels qu'ils sont m'ennuient rarement, et quelquefois ils m'amusent. » Quand Paul Vance fut sorti, Leménil écouta décroître le bruit des pas dans l'antichambre et retomber le battant des portes. Puis s'approchant d'elle, « Demain à 3 heures, chez nous, n'est-ce pas ? Vous m'aimez donc encore ?» Il la pressa de répondre pendant qu'ils étaient seuls. Elle répliqua, un peu taquine, qu'il était tard, qu'elle n'attendait plus de visite et qu'il n'y avait que son mari qui peut entrer maintenant. Il la supplia. Alors, sans se faire beaucoup prier, « Tu veux ? Bien, écoute, je serai libre demain toute la journée. Attends-moi rue Spontini à 3 heures. Nous irons nous promener après. » Il la remercia d'un regard. Puis, ayant repris sa place devant elle, à l'autre côté de la cheminée, il lui demanda ce que c'était que ce de charme qu'elle se faisait présenter. « Oh non, je ne me le fais pas présenter, on me le présente, c'est un sculpteur. » Il se plaignit qu'elle eut besoin de voir de nouveaux visages. « Un sculpteur ? Oh, ils sont généralement un peu bruts, les sculpteurs. » « Oh, celui-là sculpte si peu, mais si vous êtes contrarié que je le reçoive, je ne le recevrai pas. » « Non, je serais contrarié si le monde vous prenait une partie du temps que vous me donnez. Mon ami, vous n'avez pas à vous plaindre que je sois trop mondaine. Je ne suis même pas allée hier chez Madame Meillan. Vous avez raison de vous y montrer le moins possible. Ce n'est pas une maison pour vous. » Il s'expliqua. Toutes les femmes qui y allaient avaient eu quelque aventure qu'on savait, qu'on racontait. Au reste, Madame Meillan favorisait les intrigues. Il donna quelques exemples à l'appui. Elle, cependant, les mains étendues sur les bras du fauteuil et dans un repos charmant, la tête penchée de côté, regardait mourir le feu. Sa pensée s'était enveloppée d'elle. Il n'en restait plus rien à son visage un peu triste, ni sur son corps alangui, plus désirable que jamais dans ce sommeil de l'âme. Elle garda, quelque temps, une immobilité profonde qui ajoutait à l'attrait de sa chair le charme des choses que l'art a créées. Il lui demanda à quoi elle pensait. Échappant à demi à la magie mélancolique des braises et des cendres, elle dit « Nous irons demain, voulez-vous, dans des quartiers lointains, dans ces quartiers bizarres où l'on voit vivre les pauvres gens. J'aime les vieilles rues de misère. » Il lui promit de satisfaire son goût, tout en laissant voir qu'il le trouvait absurde. Ces promenades où elle l'entraînait quelquefois l'ennuyaient, et il les jugeait dangereuses. On pouvait être vu. Et puisque nous avons réussi jusqu'à présent à ne pas faire parler de nous... Elle secoua la tête. « Vous croyez-vous qu'on n'a jamais parlé de nous ? Qu'on sache ou qu'on ne sache pas, on parle. Tout ne se sait pas, mais tout se dit. » Elle retomba dans sa songerie. Il la crut mécontente, fâchée pour une raison qu'elle ne disait pas. Il se pencha sur les beaux yeux vagues qui reflétaient les lueurs du foyer. Mais elle le rassura. « Bon, je ne sais pas du tout si on parle de moi. Et qu'est-ce que cela me fait ? Rien ne me fait rien. » Il la quitta. Il allait dîner au cercle où son ami Comon, de passage à Paris, l'attendait. Elle le suivit des yeux avec une sympathie paisible. Puis elle se remit à lire dans les cendres. Elle revit les jours de son enfance, le château dans lequel elle passait les grands étés tristes, les bois taillés, le parc humide et sombre, le bassin où dorment les eaux vertes, les nymphes de marbre sous les marronniers et le banc sur lequel elle pleurait et désirait mourir. Aujourd'hui encore, elle ignorait la cause de ses jeunes désespoirs, alors que l'éveil ardent de son imagination et le travail mystérieux de sa chair la jetaient dans un trouble mêlé de tristesse, de désir et de crainte. Enfant, la vie lui faisait envie et peur. Et maintenant, elle savait que vivre ne vaut pas tant d'inquiétude ni d'espérance, que c'est une chose très ordinaire. Elle devait s'y attendre. Pourquoi ne l'avait-elle pas prévu ? Elle songeait. Je voyais maman. C'était une bonne dame, très simple et pas très heureuse. Je rêvais une destinée tout autre que la sienne. Pourquoi ? Je sentais autour de moi le goût fat de la vie et j'aspirais l'avenir comme un air plein de sel et d'arômes. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que je voulais ? Et qu'est-ce que j'attendais ? N'étais-je pas assez averti de la tristesse de tout ? Elle était née riche dans l'éclat criard d'une fortune trop neuve. Fille de ce Montessui qui, d'abord petit employé dans une banque parisienne, fonda et gouverna deux grands établissements de crédit, trouva, pour les soutenir aux heures difficiles, les ressources d'un esprit fécond, la force invincible du caractère, un alliage unique de ruse et de probité, et traita de puissance à puissance avec le gouvernement. Elle avait grandi dans ce château historique de Joinville, acheté, restauré, meublé magnifiquement par son père et devenu en 6 ans, avec son parc et ses grandes eaux, l'égal en splendeur de Vaux-le-Vicomte. Montessui faisait rendre la vie tout ce qu'elle peut donner. athée instinctif et puissant, il voulait tous les biens de chair et toutes les choses désirables que produit cette terre. Il entassa dans la galerie et dans les salons de Joinville les tableaux de maître, les labres précieux. À 50 ans, il eut les plus belles femmes de théâtre et quelques femmes du monde dont il releva le luxe. Il jouissait de tout ce qu'il y a de précieux dans la société, avec la brutalité de son tempérament et la finesse de son esprit. Cependant, la pauvre madame Montessuie, économe et soigneuse, languissait à Joinville, l'air chétif et pauvre, au regard des 12 cariatides géantes qui, dans sa ruelle fermée par des balustres d'or, soutenaient le plafond où Lebrun avait peint les titans foudroyés par Jupiter. Et c'est là, dans le lit de fer dressé au pied du grand lit de parade, qu'elle mourut un soir de tristesse et d'épuisement, n'ayant jamais aimé sur la terre que son mari et son petit salon de dama rouge de la rue de Maubeuge. Elle n'avait point eu d'intimité avec sa fille, la sentant d'instinct trop loin d'elle, trop libre d'esprit, trop hardie de cœur, et devinant en cette Thérèse, pourtant douce et bonne, le sang fort de Montessuie, cette ardeur d'âme et de chair qui l'avait tant fait souffrir, et qu'elle pardonnait à son mari, mieux qu'à sa fille. Mais lui, Montessuie, reconnaissait sa fille et l'aimait. Comme tous les grands carnassiers, il avait ses heures de gaieté charmante. Bien qu'il vécût dehors beaucoup, il s'arrangeait pour déjeuner presque tous les jours avec elle, et quelquefois il la menait promener. Il avait l'entente des bibelots et des chiffons. Du premier coup, il voyait, réparé dans les toilettes de la jeune fille, les désastres causés par le goût triste et voyant de madame Montessuie. Il instruisait, formait sa Thérèse. Brutal et savoureux, il l'amusait et l'attachait. Près d'elle, son instinct, son appétit de conquête l'inspirait encore. Lui qui voulait toujours gagner, il gagnait aussi sa fille. Il l'enlevait à sa mère. Elle l'admirait, l'adorait. Dans sa songerie, elle revoyait au fond du passé comme la joie unique de son enfance. Elle était encore persuadée qu'il n'y avait pas au monde un homme aussi aimable que son père. À son entrée dans la vie, elle avait désespéré tout de suite de retrouver ailleurs une telle richesse naturelle, une telle plénitude de forces actives et pensantes. Ce découragement l'avait suivi dans le choix d'un mari, et peut-être ensuite dans un choix secret et plus libre. Son mari, vraiment, elle ne l'avait pas choisi du tout. Elle ne savait pas. Elle s'était laissée marier par son père, qui, veuf alors, embarrassé et inquiet du soin délicat d'une fille, au milieu d'une vie affairée et emportée, avait voulu à son ordinaire faire vite et bien. Il considéra les avantages extérieurs, les convenances, apprécia les 80 ans sonnés de noblesse impériale qu'apportait le comte Martin, avec la gloire héréditaire d'une famille qui avait donné des ministres au gouvernement de Juillet et à l'Empire libéral. L'idée ne lui était pas venue qu'elle pût trouver l'amour dans le mariage. Il se flattait qu'il y trouverait la satisfaction des désirs fastueux qu'il lui prêtait, la joie d'être et de paraître, cette grandeur commune et forte, cette fierté vulgaire, cette domination matérielle qui faisait pour lui tout le prix de la vie, n'ayant pas au reste des idées très nettes sur le bonheur d'une honnête femme en ce monde, mais parfaitement sûr que sa fille resterait une honnête femme. C'était là, dans son âme, un point qui n'avait jamais remué, une certitude première. En songeant à cette confiance absurde et naturelle, qui se raccordait si mal aux expériences et aux idées de Montessuie sur les femmes, elle sourit avec une ironie mélancolique. Et elle admirait mieux son père, trop sage pour se faire une sagesse importune. Après tout, il ne l'avait pas si mal marié, à juger le mariage ce qu'il est pour les gens de loisirs. Son mari en valait bien un autre. Il était devenu très supportable. De tout ce qu'elle lisait dans les cendres, à la clarté voilée des lampes, de tous ses souvenirs, celui de la vie commune était le plus effacé. Elle retrouvait quelques traits isolés d'une précision pénible, quelques images absurdes, une impression vague et fastidieuse. Ce temps avait peu duré, ne laissait rien après lui. 6 ans passés, elle ne se rappelait même plus très bien comment elle avait repris sa liberté, tant la conquête en avait été prompte et facile sur ce mari froid, maladif, égoïste et poli, sur cet homme séché, jauni dans les affaires et dans la politique, laborieux, ambitieux, médiocre. Il n'aimait les femmes que par vanité, il n'avait jamais aimé la sienne. La séparation avait été franche, entière. Et depuis lors, étrangers l'un à l'autre, ils ne savaient gré tacitement de leur mutuelle délivrance. Elle aurait eu de l'amitié pour lui si elle ne l'avait trouvé rusé, sournois et trop subtil à lui tirer sa signature quand il avait besoin d'argent pour des entreprises où il mettait plus d'ostentation que d'avidité. À cela près, cet homme avec lequel elle dînait, causait tous les jours, habitait, voyageait, ne lui représentait rien, n'avait pas de signification pour elle. Ramassée sur elle-même, la joue dans la main, devant le foyer éteint, comme une curieuse qui consulte une sibylle, tandis qu'elle repassait ses années de solitude, elle revit la figure du marquis de Ré. Elle la revit, celle-là, si nette, si précise, qu'elle en resta surprise. Amenée chez elle par son père qui le lui vanta, le marquis de Ré lui apparut grand et beau de 30 ans de triomphe intime et de gloire mondaine. Ses aventures lui faisaient cortège. Il avait séduit 3 générations de femmes et laissé au cœur de toutes celles qu'il avait aimées un souvenir impérissable. Sa grâce virile, son élégance sobre et l'habitude de plaire prolongeaient sa jeunesse bien au-delà du terme ordinaire. Il distingua tout particulièrement la jeune comtesse Martin. Les hommages de ce connaisseur la flattèrent. En ce moment, elle se les rappelait encore avec plaisir. Il avait un tour merveilleux de conversation. Il l'amusa, elle le lui laissa voir, et dès lors il se promit dans son héroïque frivolité de terminer dignement sa vie heureuse par la possession de cette jeune femme qu'il appréciait avant tout le monde et qui visiblement avait du goût pour lui. Il déploya pour la prendre les roueries les plus savantes, mais elle lui échappa très facilement. Elle céda 2 ans plus tard à Robert Leménil, qu'il avait voulu fortement, avec toute la chaleur de sa jeunesse, toute la simplicité de son âme. Elle se disait « Je suis donnée à lui parce qu'il m'aimait ». C'était la vérité. Mais la vérité, c'était aussi qu'un instinct sourd et puissant l'avait poussée et qu'elle avait obéi aux forces obscures de son être. Mais cela n'était point d'elle. Ce qui était d'elle et de sa conscience, c'est d'avoir cru, consenti, voulu un sentiment vrai. Elle avait cédé sitôt qu'elle s'était vue aimée jusqu'à la souffrance. Elle s'était donnée vite avec simplicité. Il crut qu'elle s'était donnée légèrement. Il se trompait. Elle avait senti l'accablement devant l'irréparable et cette espèce de honte d'avoir subitement quelque chose à cacher. Tout ce qu'on avait chuchoté devant elle sur les femmes qui ont des amants vint bourdonner à ses oreilles brûlantes. Mais, fière et délicate, dans la perfection de son goût, elle eut soin de cacher le prix du don qu'elle faisait et de ne rien dire qui peut engager son ami au-delà de ses sentiments. Il ne soupçonna pas ce malaise moral, qui d'ailleurs dura quelques jours à peine et fit place à une tranquillité parfaite. Après 3 ans, elle s'approuvait d'une conduite innocente et naturelle. N'ayant fait de tort à personne, elle n'avait point de regrets. Elle était contente. Cette liaison, c'était encore la meilleure affaire de sa vie. Elle aimait, elle était aimée. Oh, sans doute, elle n'avait pas ressenti l'ivresse rêvée. Mais l'éprouve-t-on jamais? Elle était l'amie d'un bon et honnête garçon, fort apprécié des femmes, très recherché dans le monde, qui passait pour dédaigneux et difficile et qui lui montrait un sentiment vrai. Le plaisir qu'elle lui donnait, la joie d'être belle pour lui, l'attachait à cet ami. Il lui rendait la vie non pas constamment délicieuse, mais très facile à supporter et par moments agréable. Ce qu'elle n'avait pas deviné dans sa solitude, malgré l'avertissement des malaises vagues et des tristesses sans cause, sa nature intime, son tempérament, sa vocation véritable, eh bien, il les lui avait révélés. Elles se connurent le connaissant. Ce fut un étonnement heureux. Leur sympathie n'était ni dans l'esprit ni dans l'âme. Elle avait pour lui un goût simple et précis qui ne s'usait pas vite. Et dans ce moment même, elle se plaisait à l'idée de le retrouver le lendemain dans le petit appartement de la rue Spontini où il se voyait depuis 3 ans. C'est avec une petite secousse de tête assez violente, avec un haussement d'épaules plus brutal qu'on ne l'eût attendu de cette dame exquise, que seule, au coin du feu maintenant éteint, elle se dit à elle-même « Ben voilà, j'ai besoin d'amour, moi !»